Bonjour, bonjour Yves, au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition en vous rappelant ou en vous apprenant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore, musicale, probable, improbable, agréable, insupportable, tout ce que vous voulez, les petites images qui bougent depuis maintenant largement plus d'un siècle sur les grands écrans et sur plein d'autres choses encore. Ce jour, eh bien, nous allons consacrer cette émission à un modeste hommage d'un peu moins de 30 minutes à l'un des réalisateurs de films d'horreur et de science-fiction les plus talentueux des années 70-80 et au-delà. Quoique, en l'espèce, le dénommé John Howard Carpenter, plus connu sous le nom de John Carpenter tout court, qui naît à Carthage, mais quelque part aux États-Unis, le 16 janvier 1948. Ses parents, ma foi, eh bien, l'initient notamment à la musique, ce qui, dans une émission qui est consacrée à la musique de film, on va le voir, ne sera pas sans importance avant que, durant l'adolescence, eh bien, le jeune garçon se découvre passionné par le cinéma. Bien évidemment, vous l'auriez deviné, passion qui se traduit, qui se décline de manière double. D'une part, il fréquente assidûment les salles de cinéma, en privilégiant les westerns, les films de science-fiction, d'horreur, d'épouvante, etc., etc. Et puis d'autre part, eh bien, il filme ses premiers courts-métrages d'horreur en 8 mm. Et oui, nous sommes à l'époque de 8 mm, un format de pellicule. Comment ? Qu'est-ce que la pellicule ? Une autre émission peut-être, je vous l'expliquerai. You Naughty Young Boys. Bref, le jeune Carpenter se montre, dès son plus jeune âge, dévoré par une unique passion, celle de faire du cinéma. Ce qui l'entraîne en 1968. A intégré l'University of Southern California School of Cinematic Arts. Ça n'a aucune importance de le dire, mais ça me permet d'admirer mon accent anglais, qui n'est pas si mal. Bref, après un premier court-métrage de fiction, c'est joli aussi, tourné en 1970, eh bien, d'une certaine manière, John Carpenter connaît une mini-célébrité dès son premier long-métrage, qui s'appelle Dark Star et qui sort en 1974 sur les écrans. Alors, c'est un tout petit budget, le film connaît une sortie tout à fait confidentielle, mais ma foi, une sortie confidentielle et pour autant remarquée, qui permet à John Carpenter d'enchaîner en 1976 avec un autre film, lui aussi à tout petit budget, et qui connaît une sortie tout à fait confidentielle, mais qui, ma foi, une seconde fois, lui permet, ça s'appelle Assaut, lui permet de connaître une certaine notoriété et qui l'amène à tourner son premier vrai grand film, en tout cas le premier pour lequel il rencontrera un succès plus que d'estime, un succès commercial. Alors c'est une histoire de psychopathe qui persécute les enfants, encore une histoire de psychopathe qui persécute les enfants, non. Chers amis, c'est la première histoire de psychopathe qui persécute les enfants. Ça s'appelle Halloween, peut-être l'auriez-vous deviné. On en dira un mot après, mais on va s'en écouter tout de suite un petit extrait. Et la musique, elle est de, ça aussi, vous l'auriez deviné, eh bien oui, elle est de John Carpenter lui-même. Allez, on commence à frissonner. Halloween 24, notre seconde divergence. Thank you. Le film de psychopathe qui est le père de tous les films de psychopathe, parce que la mère, ça ferait un peu bizarre. Halloween, un film de et une musique de John Carpenter. Effectivement, un cas assez rare de cinéaste qui aura composé, non pas la totalité, mais la majorité des musiques de ses films, parce que, comme je l'ai indiqué, eh bien, il eut une double culture cinématographique et musicale de par ses parents. D'ailleurs, la petite histoire, je ne fais que lire ma fiche, dit que le thème musical que nous venons d'entendre, eh bien, a été inspiré à John Carpenter par son père, qui le lui avait appris quand il était enfant. Comme quoi, on apprend plein de choses enfant, qui ressurgissent bien plus tard. Je l'ai dit aussi, après deux films et aussi un téléfilm tourné entre Dark Star et Asso, entre ces trois films, eh bien, John Carpenter avait connu un succès d'estime, alors qu'avec Halloween, il connaîtra non seulement ça, puisque Halloween reste un très grand film d'épouvante, encore qu'il n'y ait pas grand-chose de fantastique, mais surtout, ce fut son premier triomphe commercial, puisque le film rapporta 47 plus 60, je retiens 3 et je ne pose rien du tout, une centaine de millions de dollars, tout compris États-Unis international, alors que son budget de production avait, lui, été quelque peu ridicule en regard des sommes colossales qu'il accumula. Dans ce film, donc, qui raconte tout simplement l'histoire d'un tueur qui sévit la nuit du 31 octobre, la nuit d'Halloween, et qui, évidemment, tue beaucoup de monde, on retrouvait un acteur fort connu, même si pas forcément très très connu, mais qui avait déjà joué dans de nombreux films, Donald Pleasance, le délicieux, même si le terme lui convient peu, Donald Pleasance, et puis aussi, paradoxal, ou en tout cas surprenant que cela puisse paraître, une actrice alors inconnue, Jamie Lee Curtis, mais par contre son nom ne vous sera peut-être pas inconnu. Et oui, c'est la fille de Janet Lee et de Tony Curtis. La fille de Janet Lee et de Tony Curtis. Je vous laisse imaginer la bombe, oui, tout simplement, la bombe que c'était. Mais la pauvre était fort malmenée dans ce film qui permit donc à John Carpenter d'obtenir un succès critique et un succès commercial en même temps, ma foi. Il y a des années fastes. Il enchaîna ensuite, toujours dans cet aller-retour cinéma-télévision qui le caractérise quelque peu, avec un film que, me semble-t-il, on vit sur les grands écrans, en tout cas en France, mais j'en ai plus vraiment la certitude, en tout cas un film biographique consacré à l'immense Elvis Presley qui s'appelait Le Roman d'Elvis avec Kurt Russell, relativement convaincant, dans le rôle du King. Un téléfilm, donc pas de recette à l'international, mais par contre un très très grand succès d'audience qui permit là encore à John Carpenter de prendre ses aises pour son film suivant, qui fut un film d'épouvante, là encore un hommage direct à l'un des plus grands romanciers d'épouvante de la fin du 19e, début du 20e, si je me souviens bien, H.P. Lovecraft, un homme peu recommandable a priori, mais un grand écrivain, en tout cas un inspirateur de générations de cinéphiles et surtout de cinéastes, mais aussi de romanciers. Il me semble que le nommé Houellebecq n'est pas sans se réclamer de Lovecraft, auquel il consacra son premier livre, et aussi de dessinateurs et autres illustrateurs qui puisèrent dans ses romans et nouvelles maladives, horribles et nauséeuses, maintes inspirations. Ce fut donc aussi le cas de John Carpenter quand il s'essaya au scénario et à la réalisation d'un film qui devint The Fog. The Fog, une histoire finalement assez subtile d'un brouillard maléfique qui a envahi une petite ville américaine et qui bien évidemment se trouve transformée en un cauchemar vivant. Cauchemar vivant, là encore illustré musicalement par John Carpenter, et bien là encore, on va en écouter un petit extrait, The Fog, le brouillard, vous l'auriez deviné, mais vous êtes quand même gardé la ligne dans 24 notes secondes. Les accords musicaux, finalement très caractéristiques de John Carpenter pour The Fog, réalisé par Le Susdi, un film sorti sur les écrans en 1980, qui donc se plaçait sous le double patronage, encore que le mot semble bien usurpé, de Lovecraft et aussi d'Edgar Poe. Comment ne pas citer Edgar Poe quand on parle d'horreurs et d'épouvantes de la fin du 19e et du début du 20e. Et c'était par une citation de ce dernier, d'Edgar Allan Poe, que s'ouvrait ce film, l'histoire d'un brouillard maléfique qui enveloppait et finissait par rendre fou Jamie Lee Curtis, à nouveau de l'aventure après Halloween, et Adrienne Barbeau, une actrice sans doute bien oubliée, mais qui, à l'époque, était aussi la femme de John Carpenter, auquel nous consacrons cette émission de 24 notes secondes de ce jour, pour un film finalement plutôt bienvenu, qui connut un remake calamiteux, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y en eut d'ailleurs d'autres, et notamment d'Halloween, envie de John Carpenter, non pas aux commandes, mais à la production d'Halloween 2. Il y en a peut-être eu d'autres, mais j'ai arrêté après le 2, de même que je me suis dispensé des remakes qui ont été faits il n'y a pas si longtemps, d'Halloween donc, et de quelques autres films de Carpenter. The Fog, qui connut là encore un grand succès commercial, peut-être un succès critique un peu moins, mais qui permit aussi au dit John Carpenter de proposer en 1981 ce qui personnellement reste mon opus préféré du maître, un film intitulé New York 1997, où l'on voyait New York, j'allais dire l'île de New York, mais c'était un peu ça, transformé en un gigantesque pénitencier où la bonne société déversait tous les rebuts dont elle ne voulait pas, en les entourant évidemment de barrières et autres murs pour les empêcher de sortir. Un univers donc livré à lui-même, dans lequel le même Kurt Russell qu'on voyait dans le roman d'Elvis interprétait le personnage de Snake Plissken, qui se trouvait obligé d'aller sur cette île pour y sauver, sauf erreur de ma part, la fille du président des États-Unis, président, pas la fille, incarnée là encore par le délicieux Donald Pleasance. Quand je vous aurais dit qu'on retrouvait aussi dans ce film quelques trognes les plus fameuses du cinéma américain, comme Lee Van Cleef, Ernest Borgnine, qui avait même Isaac Hayes, oui, le grand Isaac Hayes de Shaft, et quand je vous aurais dit aussi que depuis New York 1997 est devenu un film culte, il faut bien le dire, eh bien j'espère que je vous aurais donné envie de le voir. Là, contrairement au remake calamiteux que j'ai évoqué tout à l'heure, eh bien il n'a pas pris une ride, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, pour son esprit anarchiste, son humour inconvenant et cette capacité de Snake Plissken, donc le héros, d'incarner une sorte de liberté absolument totale, sans aucune contrainte sociale, religieuse, politique, que sais-je encore, un personnage des plus cyniques, mais surtout un personnage, j'ose à peine le dire, tant ça semble désormais un gros mot, un personnage libre. Voilà, on s'écoute un petit extrait de la bande originale. Je n'ai plus besoin de vous le dire. Elle est aussi signée de John Carpenter, New York 1997, mais aujourd'hui dans 24 notes secondes. Voilà, les accents électroniques, sinon un peu simplistes, du moins en tout cas très efficaces, de John Carpenter pour un extrait de la bande originale de New York 1997. Un film sorti non pas en 1997, mais en 1981. Alors déjà une petite rectification, c'est bien le président des États-Unis et non pas sa fille. Je ne sais trop pourquoi, ou plutôt si, je sais pourquoi, mais j'y reviens tout à l'heure. C'est bien le président des États-Unis incarné par le veule Donald Pleasance, ou plutôt un président des États-Unis veule incarné par Donald Pleasance, que sauvait le dénommé Kurt Russell, alias Snake Plissken, ça ne s'invente pas, l'homme au bandeau qui faisait ressembler ce film jubilatoire à quelque chose, à mi-chemin, ou presque entre le western, le film de pirate, le cinéma de science-fiction et la métaphore politique, puisque il n'était pas interdit, même si John Carpenter, bien à l'image en cela des cinéastes américains de base, se l'interdisait, il n'était pas interdit de voir dans New York 1997 ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui un brûlot anarchiste, mesdames et messieurs. Le retourne, le temps passe, banalité qui permet d'expliquer que je vais être un peu plus rapide sur le reste de la carrière de Carpenter. On va quand même écouter un dernier extrait musical avant d'en finir. Mais, je l'ai évoqué au début, peut-être que ces années d'or que furent les 10 premières années de la carrière de Carpenter, eh bien, ne furent pas à l'aune de ce qu'on vit après 1982, sur lequel nous allons conclure cette émission. De la douzaine de films, quand même, qu'il réalisa ensuite, on peut peut-être extraire, là comme ça, le délicieux Starman, tourné en 1984 avec Jeff Bridges. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui aiment les histoires de science-fiction un peu à l'eau de rose. On peut retenir, mais comme un écho un peu lointain de New York 1997, le Los Angeles 2013, tourné en 1996, et dans lequel, sauf erreur de ma part, c'est la fille du président que sauvait cette fois le dénommé Snake Plissken, revenu d'entre les cendres, mais qui était un peu moins à l'aise et dont le principal trait de révolte était, mesdames et messieurs, de fumer à l'écran. Effectivement, dans un film américain en 1996, c'est une provocation où je ne m'y connais pas. Pour le reste, peut-être des titres en mineur par rapport à Halloween, Fog ou quelques autres. Vampires en 1998, mais Vampire, ça marche aussi. Et puis, moi, je l'avais bien aimé. En 2001, il y a eu 2-3 films en 2001 qui se passaient sur Mars. Et le Ghost of Mars de John Carpenter n'était pas forcément le plus nul. Il n'empêche, on ne peut pas être et avoir été, comme le disait un ancien président de la République, me semble-t-il, mais il est mort depuis très très longtemps. On ne peut pas être et avoir été. John Carpenter, eh bien maintenant, a rejoint le redoutable statut de cinéaste culte, ce qui veut dire qu'il ne tourne plus ou pratiquement plus, et que quand il tourne, eh bien, chez nous, ça passe directement en DVD. Sic transit gloria mundi, comme le disait un autre président de la République. Bien entendu, je plaisante. Voilà, on va terminer, bien évidemment, en musique, en écoutant un extrait d'une musique qui n'est pas cette fois de John Carpenter, puisqu'elle est signée du grand Ennio Morricone, et oui, lui-même, qui dans les années 80 amorçait une carrière américaine brillantissime, et en l'espèce, eh bien, il signait la musique d'un film intitulé The Thing, un remake, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais un remake bienvenu, d'un film d'Howard Hawks tourné dans les années 60 qui s'appelait La chose d'un autre monde. En version 82, ça s'appelait The Thing, l'histoire d'une créature extraterrestre et maléfique qui s'empare des corps et des esprits des participants, plutôt des occupants d'une base polaire et qui finit bien évidemment par tous les exterminer. Voilà, c'est simple, c'est efficace, ça n'a pas été très bien accueilli, mais c'est devenu là encore un film culte et on conclut sur ça cette émission de, ou plutôt avec John Carpenter, un extrait de la bande originale, Morricone The Thing, 24 notes, seconde.
Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you. Bye bye.